Bonsoir, comment allez-vous? Mieux vaut être riche et bien portant que pauvre et malade, disait Coluche. La pauvreté rend fou, à force de tourner dans sa tête des problèmes insolubles. Je dois acheter deux choses indispensables à 40 euros alors que je n'en dispose que de 18. Contrairement à la baignoire qui se remplit, il n'y a pas de compte juste, que des bricolages. Et quand les trains se croisent, pourvu que je ne sois pas dessous, la raison se grippe et le cœur se serre. Je n'ai pas pour autant envie d'être très riche. Être sans souci me suffit. Les voitures menaçantes, les poitrines refaites et les portails électriques ne me font pas rêver. Cette semaine, un très 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 riche s'est offert et a offert un voyage dans l'espace, un vrai voyage dans le vrai espace. Je ne sais pas quoi penser. C'est sûrement mieux que d'acheter de l'héroïne base ou des permis de construire sur des lieux protégés. L'argent permet d'aller loin, toujours plus loin. La plupart des habitants d'une région, d'un pays, n'ont pas trop les moyens de s'en éloigner. Est-ce plus beau pour nous, plus loin? Bon, pas toujours. Mais c'est différent. Si tout le monde s'en va, l'identité, le charme d'un lieu va partir aussi. Le voyage, n'est-ce pas aller à la rencontre de la vie des autres pour enrichir la nôtre? Chocolaté con churros en Espagne, vent et feu de bois en Écosse, cante de gazelle et générosité au Maghreb. Et sur Mars, qu'aurons-nous?
Oui, bonjour. L'enfance est loin, mais je voudrais savoir si à 70 ans, j'ai l'espoir de voir des vols habités rejoindre Mars. Merci et votre émission est très bien. À bientôt.
Christophe Banal, vous êtes ingénieur, expert à la direction des lanceurs du CNES et vous avez écrit « Pollution spatiale, l'état d'urgence » édité chez Belin.
Très franchement, vous savez quoi? Si on se lève tous les matins, tous autant qu'on est dans ce milieu, c'est juste pour aller habiter sur Mars. C'est juste pour aller poser le pied sur Mars. Et tout le monde a cette obsession dans notre travail. Alors cette obsession, cette ligne finale, bien sûr, on va aller vers Mars. Par contre, bon, aller vers Mars, c'est pas facile. Mars est quand même très loin. Mars pose plein de problèmes. Mars est très loin. Même quand elle se rapproche le plus près de la Terre, elle est encore à 100 millions de kilomètres à peu près. Donc on a vraiment trois difficultés liées à Mars. La première difficulté est technique. Comment y va-t-on? Avec les meilleures fusées qu'on a aujourd'hui, etc., il faut à peu près 9 mois pour y aller. Puis après, ben, on passe un mois, un an sur place, mais il faut 9 mois pour revenir. Donc déjà, c'est des expéditions qui sont très longues, techniquement. On part pour 2 ou 3 ans. Donc c'est plus, on ne part plus pour une semaine comme on allait sur la Lune. La Lune, il faut 3 jours pour y aller, 3 jours pour revenir, grand maximum. Par contre, techniquement, on a absolument tous les moyens pour y aller. Donc on pourrait le faire demain. La deuxième difficulté, par contre, c'est plus justement lié au fait que c'est très loin, c'est tout ce qui est contrainte psychologique et physiologique. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on vit pendant 9 mois de transfert en apesanteur, donc il faut essayer de se mettre en gravité artificielle et autres. Et puis il y a tout le côté psychologique, on est loin de la maison. Voilà. Vous téléphonez à la maison, c'est « Allô chérie ?» 20 minutes après, il y a chérie qui dit « Pardon, j'ai pas entendu ». 20 minutes après, vous dites « Ah, je disais bonsoir ». Donc vous n'avez plus de relation. Et ça, c'est quelque chose où, au niveau de l'entraînement, on en est loin encore. Il y a des astronautes qui ont passé 1 an dans l'espace. Plus qu'un an, Polyakov a passé 436 jours, je crois, si je me souviens bien. Mais c'est pas pareil. C'était Claudie Aigneret qui était dans la station spatiale et qui parlait à sa fille. Et sa fille qui lui disait « Mais tu es juste à côté, tu es juste à 400 kilomètres de moi, c'est tout près, quoi. Donc, pourquoi est-ce que tu m'embêtes ?» C'était mignon. Bon, ça, c'est l'anecdote. Là, c'est pas pareil. Si vous êtes sur Mars, vous êtes autonome et donc il faut apprendre à vivre en autarcie complète, autonome. Si vous avez le moindre problème, vous ne pouvez vous en remettre qu'à vous-même. Et ça, soyons très francs. Autant les problèmes techniques, on pense, nous ingénieurs, on pense qu'on les a résolus et qu'il n'y aurait pas de problème. Dans les problèmes psychologiques, physiologiques, tenus longtemps, etc., ça, c'est pas encore complètement résolu. Et le troisième volet majeur, c'est la volonté d'y aller. C'est-à-dire, évidemment, on a tous envie d'y aller, mais évidemment, c'est très cher. Donc après, c'est une question de priorité. Quel va être le degré de priorité qu'on va pouvoir donner? Et pour le moment, personne n'est trop prêt à mettre ça en priorité absolue. Donc, si on mettait ça volontairement, de façon vraiment décidée, demain, oui, il n'y a aucun problème, même à 70 ans, il n'y a aucun problème pour espérer voir quelqu'un marcher sur Mars. Par contre, bon, si on ne fait pas ça sérieusement, bon là, ça peut durer beaucoup, beaucoup plus longtemps.
Voilà, merci beaucoup Christophe Bonal. Vous connaissez le principe des petits bateaux, des enfants posent des questions et nous, nous trouvons des spécialistes pour leur répondre. Ce soir, vous avez demandé à Jean-Philippe Lachaud comment on peut apprendre à lire très vite. Vous avez demandé à Aurore Avargues-Weber comment fait-on pour savoir quelles couleurs arrivent à voir les animaux. Et au docteur Jean Habitbol, comment font les ventriloques pour parler avec le ventre. Voilà, ces questions ont été posées au 01 56 40 43 57.
Bonsoir, je m'appelle Orlane, j'ai 11 ans, j'aimerais bien savoir quel est le premier animal qu'on a mis au zoo. Merci, au revoir.
Bonsoir Orlane. Pascal Jacob, vous êtes un spécialiste du cirque et des zoos. Alors, des zoos avec un Z et deux zoos et un S, puisque j'en ai mis des. Alors, que pourriez-vous répondre à Orlane?
Alors, bonsoir Orlane. C'est difficile de savoir quel est le premier animal que l'on a mis dans un zoo. Moi, je dirais, finalement, si un jour, un groupe d'hommes a coincé un ours dans une caverne et a mis des barreaux avec des troncs d'arbres devant, c'est le premier animal que l'on aura enfermé, ou peut-être un tigre à dents de sable, ou je ne sais pas. Mais si on doit être un peu plus raisonnable, il faut d'abord savoir ce que signifie un zoo. En fait, un zoo, initialement, ou une ménagerie, c'est un geste de pouvoir. C'est-à-dire que posséder une collection d'animaux, c'est une manière de dire « j'ai le pouvoir de les avoir ». De les avoir achetés, acquis, commandés, on me les a offerts parce que je suis puissant, etc. etc. Donc il y a eu l'animal fait partie des transactions, des cadeaux royaux, princiers, depuis très 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 longtemps. Charlemagne a reçu des animaux exotiques, par exemple.
Ah déjà ?
Oui. Ah oui, c'est vraiment, les Romains offraient des animaux aussi, ou recevaient des animaux. L'animal, parce qu'il est un témoin par sa sauvagerie, par sa beauté, par sa curiosité, son allure, il est un témoin de ce que l'on est capable d'offrir de plus précieux. Et donc, évidemment, quand on reçoit un animal, il faut bien le loger quelque part. Donc de là sont nées les premières ménageries, les ménageries royales, les ménageries princières. Parfois même, c'est un prélat, un dignitaire de l'Église qui possède des animaux dans un parc, etc. Ça peut être un empereur. On sait que quand Cortés est arrivé à Mexico au moment de la conquête, dans le palais de Montezuma, il y avait une ménagerie absolument extraordinaire. Donc ça fait partie de l'histoire. Alors il est très difficile de savoir quel est le premier animal. En revanche, on sait évidemment que dans ces ménageries, dans ces collections royales ou princières, il y avait à peu près tout ce que l'on pouvait imaginer, c'est-à-dire des lions, des autruches. Et il y a une ménagerie à Versailles, il y avait une ménagerie à Chantilly. Les princes de Condé avaient une formidable ménagerie. Et puis au monastère de Saint-Gall, par exemple, en Suisse, il y avait une ménagerie aussi. Il y avait un endroit où on conservait des animaux. Alors souvent pour l'étude, pour la science, pour la connaissance, le muséum d'histoire naturelle, quand la ménagerie a été fondée par Buffon, c'était aussi pour la connaissance, c'est-à-dire que l'on a à la fois montré des animaux pour montrer la diversité du monde, sa richesse, mais en même temps pour les étudier, pour comprendre comment finalement fonctionnait le monde, et les animaux en étaient des rouages ou des témoins, comme les plantes, les fleurs, etc. On a donc développé ce service incroyable des vélins du muséum, où l'on représentait les animaux pour la postérité, pour la mémoire. Chaque animal qui rentrait, chaque plante, chaque champignon, chaque caillou était représenté. Et les animaux, il y a des vélins absolument sublimes, des animaux qui sont passés, qui ont transité par la ménagerie fondée par Buffon.
Donc le zoo pour montrer son pouvoir et le zoo pour la science.
Voilà, le zoo après a évolué vers le divertissement, mais sans pour autant négliger la science, puisqu'on sait aujourd'hui que les jardins zoologiques œuvrent à la conservation et sont parfois dotés de laboratoires. Je pense à la Haute Touche notamment, qui est un parc du Muséum National.
C'est où ? À Haute Touche, dans le parc de la Brenne, me dit le réalisateur.
C'est ça. Le village, c'est Opterre. Mais c'est un endroit formidable pour des promenades en famille, au milieu des bois, avec une collection de cervidés extraordinaire. Mmh. Et c'est un des zoos génétiques, puisqu'il y a un laboratoire où on conserve des semences, d'animaux qui, on espère un jour, seront utiles à repeupler peut-être des territoires qui n'en ont plus.
Voilà, une bonne idée week-end, une bonne idée vacances. Vous ai-je dit que Pascal Jacob a écrit la fabuleuse histoire du zoo, éditée au Seuil.
Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie. J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je te verrai tous les jours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras?
avec moi. On est partis tous les deux pour une drôle de vie. On est toujours amoureux et on fait ce qu'on a envie. Tu as sûrement fait le tour de ma drôle de vie. Je te demanderai toujours si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi me donne tous ses emblèmes, me touche quand même.
Chanson sur ma drôle de vie, c'était bien sûr Véronique Sanson.
Les petits bateaux sur France Inter.
Quand vous parlez en classe, ce que je vous déconseille fortement, comment vous faites-vous piquer? Eh bien, parce que l'enseignant voit vos lèvres bouger plus qu'il ne vous entend. Il faudrait arriver, d'ailleurs c'est ce que font les vrais mauvais sujets, à se cacher derrière un livre ou se cacher derrière un cahier. Mais le plus fort serait d'arriver à parler sans bouger les lèvres. Je vous redis que je vous déconseille de parler en classe.
Bonjour, je m'appelle Juliette, j'ai 7 ans et demi et je voudrais savoir comment font les ventriloques pour parler avec le ventre. Merci, au revoir.
Bonjour, je m'appelle Lilian, j'ai 9 ans et je voudrais savoir pourquoi certains moines peuvent-ils chanter plusieurs voix en même temps?
Docteur Jean Abitbol, c'est étonnant ce qu'ils évoquent tous les deux, Lilian et Juliette.
Oui, c'est magnifique. C'est Harry Potter. C'est la magie de la voix, c'est ce côté mystérieux, cette voix d'où elle vient. J'ai une poupée, j'ai un monsieur à côté, il bouge pas ses lèvres, c'est la poupée qui parle. C'est pas possible, une poupée ça parle pas. C'est la raison pour laquelle au XVIIe siècle, on brûlait les ventriloques. On disait que c'était une magie noire.
C'était le diable qui parlait.
C'était le diable qui parlait, et petit à petit, on s'est aperçu... Grâce à Monsieur de la Chapelle, qui est un prêtre pas très loin d'ici, à Saint-Germain-en-Laye, qui a dit « Attends, moi je veux comprendre, avant de les brûler, qu'est-ce qui se passe ?» Et il s'est tout simplement inspiré de la Bible. Et dans la Bible, il y a un verset extraordinaire du roi Saül, où il va aller voir sur le mont d'or pour pouvoir avoir la voix de l'au-delà, comprendre ce qu'il allait faire contre les Philistins. Et une femme lui répond, sans bouger les lèvres, ce qu'il devait faire. Et à ce moment-là, il dit, c'est Dieu qui m'a parlé, donc je vais écouter. C'est la pitié de Delphes, en Grèce. Et en grec, c'était ça aussi. On disait à la pitié de parler, elle était sur un trépied au-dessus, soi-disant, d'un puits qui émanait certaines vapeurs, et elle se mettait à dire, à insulter l'empereur, mais elle pouvait, c'était pas elle qui parlait. C'était les dieux. Elle bougeait pas ses lèvres. Donc les ventriloques avaient cette puissance, presque de sorcier. Alors, comment un ventriloque ou les chants tibétains, c'est un peu pareil. Ces deux questions sont groupées. Et c'est bien. Comment font-ils? Pour parler, est-ce que c'est le ventre? Comme il le disait à l'époque, et gastritus. C'est-à-dire, est-ce que c'est le ventre qui parle? Est-ce que finalement, le ventre peut parler? Avec des voyelles, des consonnes, c'est quand même curieux. Eh bien non. Depuis près de 25 ans, j'ai eu vraiment l'énorme chance de filmer Christian Gabriel, qui est un superbe ventriloque, puis ensuite d'autres ventriloques, connus aujourd'hui comme Panacloc, mais beaucoup plus jeunes, mais je vous parle de ça il y a 25 ans.
C'est les idoles de Marjorie, ici. On les connaît bien au petit bateau.
Et il a voulu, le pauvre, pendant une heure et demie, avoir un fibroscope. C'est quoi ? C'est un petit tube que je passe dans le nez, en arrière de l'aluette, que je descends dans la gorge, mais il peut parler, puisque je ne touche pas la bouche pour examiner la voix, pour examiner le larynx. Et grâce à ça, il parlait en ventriloquie.
Il y a une caméra au bout de votre tube.
Il y a une caméra où on filme. Eh bien, ma première surprise a été, eh bien non, c'est pas le ventre, c'est les cordes vocales. Mais la chose extraordinaire, géniale, c'est qu'il fabriquait des lèvres derrière ses lèvres avec sa langue. Et en fait, les lèvres ne bougent pas. La langue, avec les muscles qui sont dans la joue, dans sa gorge, reformait comme une bouche pour faire comme si, quelque part, la voix reconstituait la totalité de la mobilité des lèvres. Donc oui, les ventriloques parlent avec deux cordes vocales. Oui, ils sont comme vous et moi, mais c'est des contorsionnistes de la gorge. C'est des contorsionnistes de la voix que ne sont pas les imitateurs. Là, c'est une autre histoire.
Le docteur Jean Habitbol a écrit Le pouvoir de la voix chez Alary Éditions.
Bonjour, je m'appelle Marine. À une exposition au Palais de la Découverte sur la lumière, ils montraient les couleurs que pouvaient voir certains animaux. J'aimerais savoir comment on fait pour savoir quelles couleurs voient les animaux. Merci de me répondre. Au revoir.
Bonsoir Marine, quelles couleurs voient les animaux ? Aurore Avargues Weber, vous êtes chercheure au CNRS à l'Université de Toulouse.
Bonsoir, bonsoir Marine. Alors, il y a plusieurs façons de savoir quelles couleurs voient les animaux. La première, qu'on utilise déjà depuis très longtemps et qui est la plus simple, c'est de demander aux animaux. Alors, comment on fait pour demander aux animaux ? Il y a plusieurs méthodes. La plus facile, c'est de leur apprendre à associer quelque chose à la couleur, par exemple de la nourriture. Si on leur donne de la nourriture toujours, par exemple si on parle d'un individu qui va chasser, on peut lui donner des proies qui sont toujours colorées en vert, par exemple. Ou donc sur une abeille, on peut lui donner de la nourriture sur un carton de couleur. Ou alors, à l'inverse, un apprentissage que l'on dit aversif, c'est-à-dire un apprentissage de quelque chose qui leur fait peur. Et donc on peut leur donner un son très violent qui va leur faire peur à chaque fois que l'on colore la pièce en vert, par exemple. Donc ça, c'est tout des apprentissages où on va voir que l'animal va apprendre la couleur associée à quelque chose qui est importante pour lui. Donc soit la nourriture, soit quelque chose qui lui fait peur ou un prédateur. Suite à cette association, il est facile de voir s'il va reconnaître cette couleur-là ou s'il ne réagira pas plus avec cette couleur-là qu'avec un gris ou une autre couleur. Et donc, de cette façon-là, on est capable de voir si cet animal est capable de voir cette couleur, s'il la reconnaît parmi d'autres couleurs ou s'il ne la reconnaît pas. Et donc ça, bien sûr, c'est pas très précis, mais ça nous permet d'avoir un grand ordre de grandeur. Après, de façon bien plus précise, on peut faire des enregistrements électrophysiologiques. Donc ça, ça veut dire quoi ? Tout simplement, les yeux fonctionnent comment ? Dans les yeux, il y a des protéines qui s'appellent des opsines, qu'il y a dans tous les yeux des animaux. Et ces opsines, elles voient, entre guillemets, dans une certaine couleur. Et donc, ça veut dire qu'elles vont être réactives à cette couleur-là et envoyer de l'information au cerveau dans cette couleur-là. Et donc, on peut enregistrer en mettant une toute petite électrode. Dans...
Mais pas sur une abeille, par exemple, c'est trop petit.
Si.
Ah bon ?
Ah oui, même sur une petite mouche, on peut le faire sur des animaux très petits, avec un microscope, en façon très précise et en étant très délicat. J'en suis pas capable moi-même, mais il y a des gens qui ont des mains très précises qui arrivent.
Ah ouais.
Et donc comme ça, on peut aller enregistrer dans l'œil et puis on met différentes couleurs et on voit quand c'est que l'œil réagit. Et donc, par exemple, vous me parliez des abeilles, on sait que dans les abeilles, il y a trois types d'opsines. Une qui va répondre dans le bleu, une dans le vert et une dans l'ultraviolet. Donc on sait comme ça que les abeilles voient l'ultraviolet. Et nous, pour information, on voit dans le rouge, dans le bleu et dans le vert. Donc on ne verra pas l'ultraviolet. Voilà, nous humains.
Et on ne voit pas l'ultraviolet.
Voilà, et donc du coup, les animaux peuvent en avoir trois, ce qui permet de bien voir les couleurs. Par exemple, chez les oiseaux, on peut en avoir quatre ou cinq. Donc, ils sont vraiment très précis dans les couleurs. Et il y a des animaux qui en ont un seul type.
Ah bon ?
Et donc, ils ne voient pas les couleurs.
Lesquels, par exemple ? Vous avez l'idée quelques animaux ?
Eh bien, par exemple, beaucoup d'animaux nocturnes qui, du coup, n'ont pas vraiment besoin d'avoir de couleurs. Quasiment tous les animaux nocturnes ne vont en avoir qu'un seul. Donc, il ne verra que la luminosité. Il ne verra pas les couleurs. Et on parle beaucoup, notamment, des taureaux qui, effectivement, ne voient pas le rouge. Ils ont donc un seul type de couleur. Ils n'ont pas besoin de voir les couleurs dans leur vie quotidienne.
Et les taureaux ne voient pas le rouge.
Et donc, voilà. Non,
c'est
ils ne voient pas rouge. Non,
vous êtes sûr de leur mettre, une fois 10 ans, une couleur qui les excite.
C'est plus beau pour le spectacle.
C'est nous qui voyons le rouge. C'est
voilà,
les spectateurs.
C'est
qui
ça, exactement. Donc, c'est plus beau. Mais eux ne voient pas rouge, ils voient juste quelque chose qui s'agite, qui suffit à les stimuler.
Merci pour le récit de cette expérience tout à fait étonnante. Sonic, c'était Skate, choisi par Jean-Baptiste Audibert et approuvé par Stéphane Combe, qui dit que ça donnera une idée de mouvement aux auditeurs coincés dans les embouteillages. Je vous souhaite qu'il ait raison. Vous écoutez France Inter, Les Petits Bateaux.
Bonjour, je m'appelle Léa et je voudrais savoir comment est-ce qu'on peut apprendre à lire très vite. Au revoir.
Oh Léa, que j'aime ta question, moi qui mets 2 ans à lire un livre. Jean-Philippe Lachaud, directeur de recherche à l'INSERM en neurosciences cognitives. Comment peut-on apprendre à lire très vite?
Bien Léa, très bonne question, il y a plein de façons de lire. Tu peux lire en essayant vraiment de passer du temps sur chaque mot, pour voir exactement ce que ça t'évoque. Et là, tu vas lire, ça va être une technique de lecture très lente. Mais par contre, tu vas garder beaucoup de souvenirs de ce que tu as lu. Tu vas finir ta page et tu auras l'impression d'avoir vu un film de 2 heures. Et puis à l'inverse, il y a des lectures qui sont beaucoup plus rapides et qui, sans être vraiment des lectures, qui vont être plus des recherches en fait. C'est-à-dire que tu abordes ta page à la recherche de certaines informations. Et c'est un petit peu comme ces jeux où il faut chercher Charlie. Hop, tu regardes pas toute l'image, mais tu dis « Ah, il est là, il est là, il est là ».
Ah oui, tu sais qu'il a un truc rayé rouge et blanc, tu ne vas que vers le rayé rouge et blanc.
Donc si, en abordant une page de texte, tu portes ton attention, tu te rends plus sensible à tous les mots qui sont un peu pas comme les autres. Si par exemple il y a Manhattan, ou il y a voilà, des mots qui ressortent, qui vont apparaître comme particulièrement distincts des autres, pas le verbe être, pas e, et, et, tout ça, ton cerveau va être capable de faire ça pour, en quelques secondes, les repérer et arriver à reconstruire vaguement de quoi ça parle. Et comme ça, bah, tu peux passer les pages les unes après les autres et tu vas y arriver. Mais c'est pas vraiment une lecture, c'est plus une prise de connaissance générale de ce dont parle le livre, le chapitre, etc., le texte.
Ce que vous dites, Jean-Philippe Lachaud, ça me fait un petit peu penser au point que peuvent faire les photographes, suivant ce qu'ils veulent avoir sur leur image.
C'est tout à fait ça. Ce serait une sorte de vue très globale, hein,
voilà,
pour en retirer un petit peu ce qui ressort. Après, si on rentre vraiment dans le détail, tu peux remarquer que quand tu lis à une vitesse normale, généralement, tu vas te prononcer les mots dans ta tête. Souvent, quand on lit, c'est d'ailleurs une des magies de la lecture, c'est que l'œil se pose sur un mot et ça fait un son dans la tête. C'est le son du mot comme si on se le prononçait, comme si on parlait. Ça ralentit un petit peu le processus. Donc, avec un peu de finesse, on peut arriver à glisser avec le regard sur une page en essayant de ne pas se prononcer, juste comme si on prenait des petites photos successives. Et là, comme ça, ça fait une lecture qui est très rapide. C'est une des clés de la lecture rapide.
Et ce qui expliquerait, je m'étais toujours demandé pourquoi nous avions tellement de mal à lire à voix haute correctement, d'une façon fluide et intelligible. Probablement parce que justement, quand on est habitué à lire vite, on ne prononce plus.
Oui, c'est ça. Et puis parce que l'attention est prise par le sens quand on lit. Et du coup, on fait moins attention à la façon dont on prononce. C'est un peu l'un ou l'autre.
Jean-Philippe Lachaud a écrit entre autres « La magie de la concentration » édité chez Odile Jacob. Anne-Laure Cochet, qui est à la console, me dit « Mais moi, je n'aimerais pas lire plus vite, mais avoir plus de temps pour lire. » Elle a tellement raison. Nous sommes en 2021, ça ne vous aura pas échappé. À l'occasion des 40 ans de l'abolition de la peine de mort en France, la chaîne France 3 a diffusé un documentaire sur Robert Badinter. En 1943, il est petit garçon quand son père est arrêté par la Gestapo, puis déporté et tué. Après ses études, il travaille chez le ténor du barreau Henri Torres. Ce sera un vrai maître pour le jeune Robert. À la mort d'Henri, Robert s'installe à son compte. Hélas, sa salle d'attente reste vide. Un beau jour, tout bascule, grâce à un client fauché et talentueux. Le cinéaste Jules Dassin, le jeune cinéaste Jules Dassin, suivront Roberto Rossellini, Brigitte Bardot et même Charlie Chaplin. Maître Badinter défend le tout cinéma. Un concours de circonstances l'emmène aux Assises pour y défendre cette fois un braqueur, Roger Bontemps. Il le défendra de toute son âme, de toutes ses forces, de tout son savoir. Pourtant, le 28 novembre 1972, en pleine nuit, à 4h du matin, Roger Bontemps est guillotiné dans la cour de la prison de la Santé à Paris. La suite, vous la connaissez. Le garde des Sceaux, Badinter, réussit à faire abolir la peine de mort en 1981. Pourtant, en 2021, on continue à traiter des hommes de manière humiliante, méprisante, violente, vexante, dans les prétoires et les cellules. Est-ce la bonne façon pour leur faire prendre conscience de leurs crimes et les amener à ne pas recommencer? Pas sûr. Robert Badinter, La vie avant tout, de Romain Icard, en replay sur France 3. Podcaster, mes amis, ces petits bateaux ou juste réécoutez-les par franceinter.fr. Anne-Laure Cochet, Stéphane Combe, Jean-Baptiste Audibert, Marjorie Devoucou, Noël Bréham, nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à partir de 19h30. Après le flash, vous retrouverez Jérôme Garcin pour un masque et la plume consacré ce soir au cinéma.